Le contenu, c'est vivre des émotions. Et quand on regarde une vidéo, on vit une émotion. Le contenu a été créé dans le sens où il faut qu'il y ait ce time watch dépassé les 3 secondes pour donner envie à la personne de regarder plus longtemps. À ce moment-là, il n'y a pas les reels sur Instagram, il n'y a pas TikTok. Il faut faire du format visuel, post, carousel. Donc j'essaye dans tous les sens. Et c'est là, en fait, que je commence à tester donc beaucoup de formats et comprendre ce qui fonctionne et comprendre aussi ce qui fonctionne pas. Je pense qu'il faut vraiment être passionné pour faire ça. On travaille à 24. Quand on est entrepreneur, on a toujours des doutes. Il y a des baisses comme des hausses de motivation et c'est un peu les montagnes russes. Je vois mon responsable et je lui dis écoute, il y a un projet qui m'attend et j'ai bien envie d'y aller. Et je pense que si je le prends pas, si je prends pas ce train là, je vais le regretter. Moi je charbonne parce que c'est un projet qui me plaît, enfin c'est mon voyage. C'est cette fin de développer à fond une grosse communauté. Parce que déjà moi c'était un gros bébé quoi, 250 000 personnes déjà à ce moment-là.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Lucas Rouillet. Salut Lucas, comment tu vas ?
Salut François, ça va et toi ?
Très bien, je suis très heureux de te recevoir dans ce podcast.
Et bah, moi, je suis très heureux d'être là aussi. Puisque c'est mon premier podcast.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ton tout premier podcast. Donc, c'est vrai que c'est un plaisir, justement, que tu sois sur Serial, comme beaucoup d'autres invités où ça a été aussi leur premier podcast. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Comme tu le sais, je démarre chacun de mes épisodes avec une question qui est la suivante. Dans quel environnement est-ce que tu as grandi ?
Pour commencer, donc, je viens de Niort, de base, donc, qui est le Maripoix-de-Vin et aussi... connu pour être la capitale des assurances ou des mutuelles d'assurance. J'ai grandi dans un environnement où j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me suivaient vachement. Je viens d'un bac normal, STMG.
Comme moi, ça nous sert en point commun.
Ah oui, tu viens du bac.
Exactement.
Spécialité mercatique, voilà. J'étais pas un élève studieux, mais j'étais quand même motivé pour faire ce que j'avais envie de faire. Donc mes deux parents travaillaient dans l'assurance, ma mère travaillait à la Massif et mon père à la MAF. Et je m'étais dit je ferais autre chose que travailler dans les assurances, que j'entendais parler du petit déjeuner jusqu'au soir quand je rentrais des cours. Et je m'étais dit, bon, je ferais quelque chose qui me plaît et autre chose que les assurances.
Est-ce que tu te souviens de tes premières passions ?
J'ai une très grosse passion qui est la musique. En fait, je fais du piano depuis que j'ai 6 ans. Et c'est marrant parce qu'en fait, la première communauté que j'ai montée, c'était sur ma page de piano. En fait, je faisais des vidéos. Alors, ça remonte parce que c'était sur Facebook au début. Donc, c'était un plaisir de pouvoir créer du contenu sur une de mes passions. En fait, le soir, c'était le moment détente. J'avais les courses que j'étais en classe préparatoire. Et classe préparatoire grande école commerce, c'est 45 heures de cours par semaine. Voilà, c'était une période assez lourde. Et le soir, la première chose que je faisais, c'était j'allais jouer ma petite heure de piano et c'était mon moment détente. Donc et puis j'avais réussi à créer une page, je sais pas, j'avais 2000 personnes il me semble à ce moment-là. Et c'était mon passe-temps.
Tu jouais quoi au piano ?
Un peu de tout, je sais pas, je suis loin d'être Mozart hein.
Est-ce que c'était des titres tu vois récents
ou ouais je jouais des titres d'actu, j'essayais d'adapter un peu aux tendances actuelles, okay. Tu vois, avec du Coldplay tout ça.
Très stylé. Comment est-ce que tu vis tes études ? Tu me dis que tu as fait une prépa grande école de commerce. J'imagine que derrière t'as fait une école de commerce.
Ouais, exactement.
Comment est-ce que tu vis ces études, justement, à ce moment-là?
Quand je suis au bac, je sais pas du tout ce que je vais faire. Et en fait, j'ai un de mes profs, mon prof, Monsieur Bezos, qui était mon professeur de marketing.
Il s'appelait Monsieur Bezos.
Monsieur Bezos,
comme ouais. Jeff.
Ouais.
Excellent.
Et qui m'a dit, tiens, viens, je vais te montrer ce que c'est que la classe préparatoire. Et puis, derrière, tu pourras faire tel parcours. Et puis, il y avait des étudiants, j'avais participé à une journée d'intégration, où il y avait des étudiants qui témoignaient de leur parcours. Et en fait, j'ai vu un étudiant qui était sur Paris, qui était en école de commerce, et il avait l'air de kiffer sa vie. Et je me suis dit, why not, ça, je sais pas vraiment dans quoi je m'embarque, parce que c'est quand même un parcours grande école, classe prépa, je suis pas un élève studieux, et je sais que ça va être très dur. Mais j'ai la chance d'avoir mes parents qui me soutiennent à fond, et je suis encore ma classe prépa se passe à Niort, donc j'ai à part aller en cours et être révisé le soir tard, j'ai rien d'autre à faire et j'ai pas besoin de préparer à manger, mes parents étaient là. Donc c'est une période assez longue, mais j'obtiens une école, enfin plusieurs, pas forcément celle que je voulais, parce qu'à la base moi je voulais faire une école de commerce sur Bordeaux. Et finalement, je me retrouve dans l'une des premières du classement, mais en partant du bas. J'étais à l'USCPO, qui a changé de nom aujourd'hui. Et voilà, en fait, cette école elle m'a donné confiance aussi dans mes projets. J'ai commencé en fait à développer des compétences sur le montage vidéo. Je me suis trouvé au bureau des étudiants. Donc voilà, c'était un peu moi qui m'occupais de faire tous les montages des vidéos et des promotions. Et puis, je fais un premier stage en Angleterre. C'est un stage de 6 mois. Et moi, je voulais le faire dans les réseaux sociaux. Et donc, j'avais trouvé une agence. C'était une agence qui faisait un peu de com dans l'immobilier du luxe. Et du coup, j'avais géré tous les réseaux sociaux de la boîte. Voilà, je me baladais un peu partout dans le monde pour faire des vidéos.
Plutôt cool.
Plutôt sympa, ouais.
Ok.
Et puis, en venant, je me dis, je pense que j'ai trouvé ma voie. J'aime beaucoup créer du contenu et à la fois être sur les réseaux sociaux. Donc, en venant, je cherche mon alternance dans les réseaux sociaux en tant que community manager.
Donc, c'était premier pas dans le social
voilà,
media, finalement.
Exactement. Et puis, j'étais en cours de réseaux sociaux. J'avoue que le prof était intéressant, mais j'avais déjà bien avancé sur ce qu'il disait. Donc j'étais en train de chercher sur LinkedIn une alternance. J'avais mis en fait dans mon nom prénom, j'avais mis recherche alternance en community management. Ce qui fait que quand j'ajoutais les gens, enfin les professionnels, il y a marqué recherche alternance Lucas Rouy.
Excellent.
Et en fait pendant ce cours-là, j'ai trouvé mon alternance. Vraiment 5 minutes, j'étais accepté. C'était la responsable marketing de la MACSF, qui est une mutuelle d'assurance pour les professionnels de santé, et qui me dit quand est-ce que vous êtes disponible. Je dis attendez, on n'a pas encore fait d'appel. Et puis on s'appelle, ça matche très bien, et c'est là que je commence à apprendre énormément de choses sur les réseaux sociaux avec mon responsable qui s'appelle Christophe Cotteret Clément, qui m'a appris énormément de choses sur les réseaux sociaux, à savoir la bienveillance et tout ce qui va autour, comment analyser en fait certaines audiences, comment se lancer, parce que j'ai créé donc, alors j'ai pas créé mais j'ai lancé l'audience étudiant en santé, qui a aujourd'hui 118 000 personnes sur le compte Instagram.
Rien que ça.
Et c'était ma première audience, c'était mon premier petit bébé qui est toujours aussi mon bébé aujourd'hui parce que je continue à travailler avec eux. Et donc les étudiants en santé, il fallait que j'étudie tous les parcours. C'était marrant parce qu'il y avait le parcours de la PACES, qui est aujourd'hui ça s'appelle la PAS, qui est la première année de médecine, qui me faisait un peu penser à moi quand j'étais en prépa, parce que c'est à part réviser, travailler, tu fais pas grand chose d'autre. Et donc du coup j'ai essayé d'adapter beaucoup de formats. À ce moment-là, il n'y a pas les reels sur Instagram, il n'y a pas TikTok. Donc faut faire du format visuel, post, carrousel. Donc j'essaye dans tous les sens et c'est là en fait que je commence à tester donc beaucoup de formats et comprendre ce qui fonctionne et comprendre aussi ce qui fonctionne pas. Il y a des stories aussi qui arrivent. J'ai l'impression de parler. Et c'est pas non plus hyper vieux quoi. C'est pas non plus hyper vieux et ça évolue tous les ans. Et à force de tester, je commence à avoir cette première audience qui décolle et puis c'est assez addictif. Je sais pas si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux, mais quand tu tiens une communauté, moi je sais que je regarde. Enfin, la première chose que je fais en me levant le matin, c'est que je regarde
les notifications, les likes, les commentaires,
le contenu,
les partages.
si que, ça fonctionnait, quoi.
Surtout qu'effectivement, à ce moment-là, les stories débarquent. Il n'y a pas du tout les reels, etc.
Non.
Donc, c'est clair que le contenu est assez limité à ce moment-là. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On aura l'occasion d'en parler parce que aujourd'hui, le contenu vidéo est roi et le contenu vidéo court. Mais du coup, c'est clair que on a l'impression de parler d'une ère préhistorique alors que
clairement.
Là, on est sur 2016, 2017, 2018, si je dis pas de bêtises.
Clairement, clairement, ouais, c'est ça. On est en 2017-2018, mais c'est aussi satisfaisant parce que le moment où t'as les Reels qui arrivent ou même le format TikTok, t'es là en premier pour le coup.
Bien sûr.
On comprend vite que l'algorithme se nourrit aussi des créateurs de contenu en disant « bon bah plus tu crées de contenu, plus on va t'offrir de la visibilité en fait sur ton compte. Donc ouais, c'est assez énorme. Alors qu'avant, t'avais cette satisfaction de d'aller chercher peut-être un peu plus loin dans la créa et trouver un format qui met du temps à être aimé par la communauté ou qui met du temps à fonctionner. Mais je pense que ça m'a appris aussi les bases de ce qui fonctionne. Enfin, ça m'a appris les bases de Instagram et de voir. Comment l'algorithme jouait aussi, tu vois.
Ouais, donc tu fais tes armes finalement de cette manière. À quel moment ça s'arrête et qu'est-ce qui se passe par la suite ?
Donc je termine mon alternance pendant le Covid. Et en fait, je suis embauché en CDI, à la MACSF. Donc pas une période facile. Mais je suis content, c'est mon premier job, je suis en CDI dans une entreprise que j'adore. Il y a une équipe qui est géniale, je m'entends super bien avec mon responsable. Et puis voilà, on soutient aussi parce que c'était la période n'était pas facile. Donc nous, l'EMA CSF, c'est l'assureur des professionnels de santé, numéro 1 en France. Et donc avec la période dans laquelle on était, c'était pas facile de gérer un peu, d'être bienveillant, d'apporter beaucoup de soutien aussi aux professionnels de santé durant cette période-là. Et puis, en fait, fin de Covid, j'ai un de mes meilleurs potes, Clément Petit, qui aujourd'hui, lui, travaillait, montait son agence dans l'influence, et il me dit, j'ai un pote à moi qui est en école de commerce, il aimerait bien se lancer sur les réseaux sociaux. Et est-ce que t'as un petit peu de temps et tout pour l'aider, pour juste le... lui expliquer qu'est-ce que c'est qu'une ligne éditoriale, comment créer du contenu et tout. Et donc cette personne-là, c'est Hugues Trijas, alias French Startupper. Et en fait, on s'est un dimanche pendant tout un après-midi. Et puis, déjà, très bon feeling. Je m'entends trop bien avec lui. Et puis, je passe toute l'après-midi à lui porter des idées, des conseils, comment il pourrait optimiser son contenu. Parce qu'il, pour le coup, j'ai jamais vu un gars aussi motivé et aussi régulier. Parce qu'en fait, la suite fait que, alors je suis pas le résultat de son succès, je pense que c'est lui, enfin, c'est pas je pense, j'en suis sûr, mais je trouvais ça satisfaisant d'avoir pu le rencontrer avant tout ce qu'il a entrepris par la suite. Et en fait, le déclic de me dire en tout ce que j'ai pu lui dire, finalement, il y avait du conseil qui était plutôt pertinent, tu vois. Je dis, ça fonctionne ce que je dis. Genre,
ouais.
J'étais un peu surpris, tu vois.
En fait, c'est certains ingrédients d'une recette. Et après, derrière, évidemment, il y a l'exécution de la recette qui est importante. Et c'est clair que Hugues, derrière, il a défoncé absolument tous les réseaux sociaux.
Clairement.
Je sais plus combien, je crois, 1 million sur TikTok, je sais pas.
Ouais, il sur Insta, quasiment 500 000 ou 600 000 sur Instagram. Mais
TikTok, Instagram, YouTube et LinkedIn notamment.
C'est depuis ce jour-là. En fait, depuis ce call-là, il n'a pas arrêté de publier depuis 2 ans, quoi.
C'est insane.
Et il a explosé. Bref, je crois qu'on faisait l'appel en mars. Et en juin, il me propose de venir chez lui à Montpellier. Et de passer le week-end avec notamment Clément et puis des potes à lui qui sont entrepreneurs aussi. Et je me dis, trop bien. Je vais rencontrer... déjà, je vais passer un bon week-end parce que ça va être top. C'est à Montpellier. C'est le sud, il fait beau. Et puis, avec des bons gars, quoi. Et ce week-end, incroyable. En fait, ça m'a ouvert un peu l'esprit sur ce que je voulais vraiment faire par la suite. Et de les voir, en fait, s'épanouir dans leur métier, créer des choses, créer du contenu. Alors, tous n'étaient pas créateurs de contenu, hein, mais ça m'a donné un déclic pour entreprendre. Et durant ce week-end-là, en fait, il y avait une personne, un des potes de Hugues, qui s'appelle Martin, et qui m'a permis de rencontrer Erwan, donc le fondateur des Pépites de France. Et à ce moment-là, il me dit, bon, bah écoute, je connais un gars, il a une communauté qui s'appelle les Pépites de France. Ça, il l'a monté, mais il sait pas forcément comment la développer ou ce qu'il va en faire. Donc, en vrai, je peux te mettre en relation avec lui. Et je dis, bah, carrément. Enfin, genre, moi, ça me chauffe vraiment. En plus, Pépites de France, ça parle vite. On est dans le paysage, dans le voyage. Tu mets en avant notre beau pays. Et je me dis, allez, go. Et puis, bon, bah, tu sais, souvent, on te dit, vas-y, je te mettrai en contact avec. Moi, c'est le tout début. Je me dis pas, bon, il va me mettre en contact rapidement, tu vois. Et puis, je rentre sur Paris et il me met en contact directement, quoi. Genre, j'appelle Erwan le lendemain que je rentre sur Paris. Et là, ça match, je dis à Erwan, je dis, bon, écoute, mec, t'as un bébé entre les mains, là. Il y a 250 000 ou 260 000 personnes à ce moment-là. Et je lui dis, viens, on crée un vrai truc, on développe un vrai média, je t'aide. Donc, je suis en tant que presta à ce moment-là. Et puis, moi, je charbonne, parce que c'est un projet... C'est un projet qui me plaît, enfin c'est dans le voyage, voilà, puis c'est cette fin de développer à fond une grosse communauté, parce que déjà moi c'était un gros bébé quoi, 250 000 personnes déjà à ce moment-là, donc bravo Erwan. Et on double la communauté dans l'été, on passe de 250 000 à plus de 400 000.
À ce moment-là, pour contextualiser, on est en juin 2021.
On est en juin 2021, ouais.
C'est-à-dire que sur l'été, boum, x2.
Ouais, x2.
Ce qui est énorme.
C'est énorme, mais à ce moment-là, moi je suis encore en CDI. Je suis encore en CDI parce que j'ai un de mes autres potes qui est entrepreneur aussi, Henri Hourcade, qui me manage pas mal et qui me donne des premiers clients et tout. Voilà, je me suis entouré de potes en fait, d'amis qui sont déjà entrepreneurs pour m'aider un peu à Stape et à évoluer.
Tout ça en side du coup, à côté de ton job. À quel moment est-ce que tu vois tu fais le saut de passer à 100% dessus?
En septembre, il y a une maison d'édition qui nous écrit pour nous dire « Les gars, on adore ce que vous faites et on voudrait faire un livre. » Et nous, on est là « D'accord, trop bien. » Et là, je me dis « Bon, c'est pas n'importe quoi. » Enfin, ça commence à prendre un peu d'ampleur. Il va falloir que je prenne une décision parce qu'il va y avoir du taf et je vais pas pouvoir travailler tous les soirs jusqu'à 2h du mat non-stop, quoi. Parce qu'en fait, je travaillais tous les jours à la Défense et le soir, je rentrais et je faisais tout le travail qu'il y a à faire, à savoir le planning éditorial, trouver le bon contenu. Et je me dis, il va falloir que je prenne une décision. Et donc là, je vais voir mon responsable et je lui dis, écoute, il y a un projet qui m'attend et j'ai bien envie d'y aller. Et je pense que si je prends pas ce train-là, je vais le regretter. Et je me souviens toujours de sa réponse, il me dit bah vas-y. Alors que...
Ce qui est smart,
je viens juste de signer mon CDI un an avant, voilà, il pourrait se dire t'es chiant, genre je vais devoir tout retrouver quelqu'un pour...
Il l'a peut-être pensé, mais il a dit autre chose.
Oui, non il l'a dit. Il l'a dit, mais il était chiant, mais vas-y fais-le. Ouais. Enfin, je sais plus la façon dont il me l'a dit, mais... Et je trouve ça... encourageant de pouvoir avoir quelqu'un, ton responsable qui te dit vas-y, genre fonce. Et donc, du coup, après, j'ai fait mon annonce après au niveau de ma directrice. Et puis, let's go, on se lance dans l'aventure. Donc, je lance du coup ma boîte de conseils aussi à ce moment-là. Donc,
qui s'appelle Social Real.
Social Real, ouais. Et donc, en fait, je demande une rupture co en novembre pour partir en février. Et donc, là, février, ça y est, 2022, je suis comme un poisson dans l'eau. Et donc à fond sur les Pépites de France. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive en janvier-février 2022? Les Reels sur Instagram. Et là, je dis à Erwan, écoute, les Reels, là, ils veulent concurrencer TikTok. Donc viens, on crée du contenu. On essaie de trouver du contenu et créer du contenu. Et on publie beaucoup, quoi. Et donc, vu qu'on était un des premiers à publier tous les jours, quotidiennement, on a testé beaucoup de formats. Et on a vu ce qui fonctionnait pas, mais à force de tester on a trouvé le format avec la carte, je pense qu'on a dû beaucoup voir aujourd'hui, ou qu'on voit encore aujourd'hui, de la carte de France qui zoome et qui permet de faire découvrir la pépite derrière. Et en fait ce concept là du coup cartonne et on gagne, il me semble 800 000 personnes entre février et août 2022. Du coup, et donc on passe le million d'abonnés en août 2022. Donc grosse tape là, ça commence à faire quand même pas mal de personnes qui te suivent. Et puis, tous les autres projets s'enchaînent, on teste de faire un site, ça fonctionne pas. On se dit comment en fait on peut créer un outil adapté à notre communauté. Parce que on avait à ce moment-là beaucoup de personnes qui demandaient où est-ce que je peux partir en voyage en France, est-ce que vous avez des endroits à nous recommander et tout. Et nous, enfin notamment Erwan, qui voulait trouver un outil qui permette à cette communauté-là de pouvoir se rendre où il voulait juste en allant sur un site ou du coup une application qui arrivait juste après. Donc voilà, et puis à ce moment-là, donc avec Erwan, on est un peu sous l'eau, on a beaucoup de projets qui se développent, mais on a du mal aussi à monétiser le média. Donc on teste beaucoup de choses, on teste nos premiers partenariats, on travaille avec des offices de tourisme, mais toujours dans l'idée de mettre en avant notre pays, de mettre en avant la France. Et donc c'était un peu couteau suisse, quoi, faire la partie commerciale, la partie créa, la partie web designer, voilà, on essaie de travailler avec des prestats aussi, mais au début, quand on n'a pas énormément d'argent, on est un peu obligé de se débrouiller par soi-même, quoi. Donc on teste jusqu'à rencontrer une belle personne qui nous a aidés, qui était Jean-David Blanc, et qui a voulu nous rencontrer, qui a monté des très belles boîtes, notamment Molotov TV et Allociné. Et qui écrit en fait Erwan un soir, il dit les gars, je kiffe ce que vous faites, venez on se rencontre et on fait un déjeuner. Nous on y va avec Erwan, mais sans trop savoir ce qui va se passer, quoi. Juste le gars est hyper intéressé par ce qu'on fait et on sait pas non plus n'importe qui, donc on se dit allez, il a sûrement des conseils à nous donner. Et donc on rencontre Jean-David, on lui parle des pépites de France. Et puis il nous écoute pendant tout le déj, et il parle pas forcément. En fait, il est là, on se regarde, on dit bon, quand est-ce qu'il va nous parler de ce qui, je sais pas, bon, peut-être qu'il avait des projets avec nous ou quoi. Et puis il nous regarde, il dit bon les gars, j'adore votre projet. Franchement, je suis passionné par ce que vous faites. C'est un média qui est cool. J'adore voyager partout en France. Je voyage beaucoup avec ma famille et mes amis. Comment je peux vous aider? Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où il nous a fait rencontrer des belles personnes pour commencer en fait à créer autre chose qu'un compte sur Instagram. Et on a pu, il nous a fait rencontrer un développeur pour pouvoir développer une application. Voilà, il nous a fait rencontrer beaucoup de gens pour commencer dans le milieu, avoir un réseau professionnel aussi. Que j'avais pu me faire un petit peu aussi petit à petit sur Paris, parce que sur Paris, bon bah, c'est un peu la ville où on entreprend beaucoup, mais on même si on entreprend partout en France, mais c'est très rapide de prendre un café ou de prendre un déj avec quelqu'un. Donc voilà, et puis on monte cette première application qui sort en novembre 2022, il me semble.
Il y a un an, et puis qui
a évolué après petit à petit. On a c'est beaucoup Erwan du coup qui a travaillé, lui a été beaucoup sur la partie app. Parce que pour le coup, moi, c'était pas trop ma partie. Moi, j'étais vraiment à fond focus sur création de contenu, partenariat et vraiment sur les réseaux, quoi. Moi, c'était vraiment mon dada, Instagram du matin au soir, quoi. Et puis ça y est, bon, moi, l'application fonctionne très bien. À ce moment-là, on nous propose de faire de rééditer d'autres bouquins. Et plein de projets qui s'enchaînent. Mais en janvier 2023, Erwan est un peu sous l'eau, et il se dit bon, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Je me retrouve pas forcément à créer du contenu, enfin à partager des images sur la France, parce que c'est moi qui m'en occupe, et en même temps parce que c'est quelque chose que j'adore faire, créer du contenu. Donc je vais commencer à travailler avec les marques, je me déplace, ou je fais du drone, ou voilà, je fais des reportages. Mais du coup, Erwan, il a besoin d'avoir quelque chose de physique ou avec une évolution, ce qui n'était pas forcément le cas à ce moment-là. D'où les événements sur Paris, j'avais rencontré notamment Damien Maubert, qui est devenu un très très bon ami à moi aujourd'hui, qui m'a fait rencontrer Valran. Valran qui a le média Le Crayon aujourd'hui. Donc ça, c'était en 2022, donc c'était il y a un an. Et je lui avais parlé du coup, on s'était rencontré et il adorait les Pépites de France. Il adorait ce projet-là, il nous soutenait à fond sur ce qu'on entreprenait. parce qu'il était vraiment passionné par par ce média. Et puis un soir, je me dis bon, écoute, Erwan, il est moins motivé pour continuer dans ce média, donc écoute, il y a une porte qui s'ouvre, qu'on pourra peut-être reprendre le média. Potentiellement, tout simplement. Et donc du coup, Valorant et ses associés, Antonin, Sixteen, Jules, on échange, et notamment ils échangent avec Erwan principalement. Et puis on trouve un accord commun pour qu'ils puissent racheter le média. Et donc moi, il y a pas mal de choses qui chamboulent un peu dans ma tête à ce moment-là, en me disant ok, donc Erwan a ce projet de revendre. Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu veux faire pour l'après, entre guillemets?
Qu'est-ce que tu veux faire pour l'après?
Parce que pour recontextualiser, c'est quand même une période qui, bon, j'imagine, dans ta tête, ça a dû paraître long, du moment où tu rejoins les Pépites de France jusqu'à aujourd'hui, mais c'est quand même un temps assez court, tu vois, juin 2021 jusqu'à été, enfin jusqu'à aujourd'hui, novembre 2023, on est quand même sur une période assez courte.
Ouais.
C'est un média qui a explosé sur Instagram avec 1 400 000 personnes, si je dis pas de bêtises. Plus de 350 000 utilisateurs sur l'app.
Oui.
Donc, c'est énorme.
Tu connais bien les chiffres.
Exactement, j'ai révisé un peu. Et 3 ou 4 livres, c'est ça?
On est en quatrième et il y a le cinquième qui sort là pour la fin d'année.
Donc, tu vois, sur une période de, on va dire, 2 ans. Quoi.
C'est énorme.
Donc j'imagine que forcément, quand tu vis autant de choses en aussi peu de temps, derrière, tu te poses des questions, justement, à te dire que c'est un projet qui va être transmis, revendu. Dans quel état d'esprit je suis et qu'est-ce que j'ai effectivement envie de faire pour l'après, entre guillemets. Maintenant
exactement.
Que j'ai testé et que j'ai vu ce qui a fonctionné, qu'est-ce que je fais plus tard?
J'ai testé, j'ai vu ce qui a fonctionné et en fait, les Pépites de France, c'est un projet, je pense, qui m'a passionné depuis le jour où j'ai eu Erwan, en fait, au téléphone. Je pense qu'il faut vraiment être passionné pour faire ça. Parce que on travaille à 24. En fait, le matin, je me réveille, je pense à Pépites. J'étais en train de regarder les résultats des comptes. Je vais aller chercher le contenu pour pouvoir le republier. Premièrement, le compte, c'est un média où on repartage en fait tous les plus beaux endroits qu'il y a en France. Mais bien évidemment, on n'a pas le temps de se déplacer partout dans la France. Donc, on essaye de collaborer avec des créateurs de contenu pour que, ou même des photographes amateurs, en fait. Tout simplement des personnes qui partagent du contenu sur la France, qu'aujourd'hui, le contenu le plus partagé sur les réseaux sociaux, en premier, c'est le voyage, en deuxième, c'est la food, en troisième, c'est le sport. Et donc, une simple story, une simple photo, un simple reels qui était partagé sur Instagram, moi, mon rôle, c'était d'aller chercher, du coup, cette pépite et de trouver, hein, avec un œil un peu d'expert, en ayant eu... beaucoup de tests sur les pépites, savoir quel était le contenu qui fonctionnait. Donc oui, si je reviens à ce qu'on disait, ouais. je connais bien l'audience du voyage et surtout de la France. Mais je me dis, est-ce que tu veux continuer à travailler dans un projet qui ne t'appartient pas à 100%? J'ai dépensé énormément de temps et beaucoup d'énergie pour ce média que j'adore. Mais je me dis, est-ce qu'il est pas temps de développer un média qui m'appartient à 100%? Et j'ai la réflexion de me dire, est-ce que ça va être racheté par le Crayon aussi? Est-ce que ça va être racheté par peut-être une autre entreprise? Parce que à ce moment-là, il y a pas mal de potentiels racheteurs. En fait,
gens intéressés. Ouais.
Personne intéressée pour acheter le média. Et je me dis, il faut que je me sécurise aussi, parce que si c'est pas forcément racheté par le Crayon ou par une boîte avec qui je m'entends bien, je peux aussi devoir partir et me retrouver sans média. Et donc, en fait, je me dis, allez, go, je suis passionné par créer du contenu dans la thématique du voyage. J'ai pas forcément trop voyagé encore à l'étranger et j'ai ce passion, donc, du coup, créer du contenu dans le voyage, donc je vais pas aller créer de la food. Honnêtement, faire du contenu dans la food, c'est pas trop mon truc. Donc, je suis resté dans le voyage et je me suis dit, allez, je vais créer un nouveau média qui m'appartient, qui me permettra de me sécuriser aussi, en me disant, si je pars, j'ai cette audience qui permettra de m'épanouir tous les jours, de me dire, quand je me lève le matin, je suis content de faire ce que je fais aujourd'hui, quoi. Et donc, je réfléchis à tout ça, et donc, je lance ce média en juin 2023, donc cette année, et qui fonctionne pas trop mal, qui s'appelle donc, du coup, Les Splendeurs du Monde. Splendeurs du Monde pour voyager un peu à l'étranger, parce que j'ai quand même pas mal ratissé la France. et là, je veux, du coup, voyager un peu, peut-être un peu à l'étranger. Et je réfléchis au début pour faire les deux, mais rester aux pépites. Donc du coup, travailler avec le crayon. Mais je me dis que ça va me prendre énormément de temps et que je préférerais être focus sur un seul projet et non pas deux pour accorder 100% de mon temps à ce projet-là et non pas être avec le crayon en disant, enfin en étant, comment dire, en n'étant pas 100% dans mon job avec le crayon. Et donc du coup, j'ai dû annoncer à Valorant, j'ai pris une décision qui était difficile. Parce que là, c'est quand même lâché un très gros bébé que j'ai fait évoluer en 2 ans. En soi, c'est pas énorme.
Bah, c'est-à-dire que ça a été ta vie, entre guillemets, tous les jours pendant 2 ans. Donc
c'est ça.
C'est quand même assez conséquent, quoi.
C'est ça, exactement. Et juste très grosse décision. J'ai pas passé un super été. Enfin, j'ai pas profité de mes vacances cet été. D'ailleurs, j'ai pas eu trop de vacances. Mais c'est aussi ça, l'entrepreneuriat. Et j'ai pris la décision, donc, du coup, de prendre mon envol et de pas forcément rester dans les pépites de France et de continuer avec le crayon. Mais j'étais quand même content qu'ils puissent récupérer le média parce que je savais que le crayon allait pouvoir optimiser et développer le média avec une plus grosse équipe, des studios, des éléments qu'on n'avait pas forcément avec Erwan. Sachant que Erwan n'habitait pas sur Paris aussi, pour le rappeler, donc on faisait pas mal d'aller-retour parce qu'il habitait Bourges. Donc voilà, je savais que c'était les connaissants depuis un petit moment maintenant qu'ils allaient savoir quoi en faire et comment reprendre la main. Donc je suis content que ça soit eux qui le reprennent aujourd'hui, mais je suis aussi content de prendre mon envol avec ce nouveau média, Les Splendeurs du Monde.
Donc en juin dernier, du coup, tu crées Les Splendeurs du Monde sur Instagram. En 5-6 mois, c'est un média qui dépasse les 100 000 abonnés sur Instagram, ce qui est juste... Enfin, on passe quand même de 0 à 100 000 abonnés en 5 mois.
Oui.
donc c'est quand même plutôt rapide et puissant, entre guillemets. C'est faut quoi justement un peu ta strat derrière ce nouveau média ?
Il faut savoir que avant d'être créateur de contenu, je suis un gros consommateur de contenu. Donc je passe énormément de temps sur les réseaux. Trop, sûrement. J'ai ma copine qui est pas tout le temps contente parce que je passe trop de temps sur mon téléphone, même à voilà, faut savoir déconnecter un peu aussi. C'est dur de déconnecter aujourd'hui parce que le matin on se lève, la première chose qu'on fait c'est on regarde son téléphone et la dernière chose qu'on fait c'est qu'on le dépose avant d'aller dormir. Enfin moi je sais que ça c'est pour ma part, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui c'est le cas aussi et c'est dur de déconnecter. Mais moi j'adore consommer le contenu, donc aujourd'hui le contenu, c'est vivre des émotions. Et quand on regarde une vidéo, on vit une émotion. Il y a plusieurs contenus dans notre feed sur lesquels on s'arrête. Parce que justement, en fait, ce contenu-là nous fait vivre une émotion. C'est pour ça qu'on s'arrête. C'est pour ça qu'on passe plus de 3 secondes sur la vidéo. Le contenu a été créé dans le sens où il faut qu'il y ait ce time watch qui soit dépassé les 3 secondes pour donner envie à la personne, à l'utilisateur, de regarder plus longtemps. Et en fait, à force de consommer du contenu tous les jours... notamment dans le voyage pour le coup, ben j'ai réussi à avoir cette intuition de faire vivre une émotion à la communauté et donc du coup créer un lien entre le média et les personnes qui regardent du coup le contenu. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup de tests que j'avais aussi effectué avec les Pépites de France et aujourd'hui la recette elle est là. C'est il faut comprendre ce que les gens veulent voir et du coup adapter ce contenu à la communauté et donner du plaisir aux gens, faire voyager les gens, mais aussi me faire voyager moi. Quand je regarde mon contenu, quand je regarde le contenu qui est partagé, voilà, faut que ça me fasse.
Oui, c'est un contenu que tu kiffes et voilà. Tu sais qu'il y a des gens qui vont kiffer aussi, quoi.
Exactement. Il faut faire vivre une émotion en fait à l'audience.
Ouais. Ok. C'est quoi les maintenant que ces 5 mois se sont passés, c'est quoi pour toi tes objectifs futurs? Sur cette aventure et même à titre perso sur les prochains mois, les prochaines années.
Pour l'instant là on est encore en passation du coup avec la Pépite de France, donc quand j'aurai lâché le bébé à 100%, le but c'est du coup de prendre du temps pour moi déjà parce que ça a été ça a été 2 ans de rush total. Il y a eu beaucoup d'événements cette année aussi à couvrir avec le média et je pense que mon objectif premier, c'est donc développer ce nouveau bébé, prendre du temps pour voyager un peu aussi, tout en respectant mon empreinte carbone aussi. Je pense prendre du temps et vivre ma passion, à savoir voyager, créer un média qui me plaît et faire voyager les gens à travers ce média.
Ouais. et continuer à tout dégommer sur Instagram.
Exactement.
Exactement. On va pouvoir passer à la partie bilan de cette aventure avec deux petites questions. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale ?
Je dirais qu'il y en a eu plusieurs. Quand on est entrepreneur, on a toujours des doutes, il y a des baisses comme des hausses de motivation, et c'est un peu les montagnes russes. Heureusement, j'ai ma famille, ma copine et mes amis qui m'entourent pour me motiver en fait, et me dire bon bah c'est pas rien ce que t'as fait, et il faut continuer à avancer. Mais tous les jours en fait, c'est être entrepreneur, enfin vivre de sa passion, et c'est pas facile. Être entrepreneur, c'est pas facile non plus. Je prends l'exemple de hier soir, j'étais au médecin parce que j'avais un petit truc. Il me dit bon, je vous arrête combien de temps? Je dis bah non.
Je transmets l'arrêt à qui?
Pas besoin de m'arrêter. Je travaille pour moi et je peux pas m'arrêter. Mmh. Donc ma plus grosse difficulté, je pense, c'est de faire face aux émotions qu'on vit dans ce parcours d'entrepreneuriat. Mais la plus grosse, je pense, c'était lâcher ce bébé, hein, les pépites de France. Mais il y a aussi cette zone d'inconfort quand j'avais mon CDI. Quand j'étais en CDI, je me suis dit, bon, est-ce que je saute le pas de partir et de quitter une zone de confort? Parce que j'avais un bon salaire à la MSSF, j'avais des belles primes. Pourquoi tout quitter pour prendre un risque? Mais en fait, je pense que j'ai bien fait de prendre ce risque, parce que j'ai pris un parcours derrière où je m'éclate, quoi. Mais je pense que si on devrait parler du plus gros du moment le plus difficile, c'était de prendre justement son envol entre quitter son CDI pour se lancer dans une aventure qui est pas forcément rentable au début, mais voilà.
Bah, où il y a beaucoup plus d'incertitudes, effectivement, parce que c'est clair que c'est un moment qui revient souvent, dans le sens où quand t'as un CDI, bah tout est, t'es safe entre guillemets. Et quand tu quittes un CDI pour te lancer dans l'entrepreneuriat, forcément t'as une petite prise de risque. Tout dépend aussi de le contexte, ton contexte. Et c'est clair que ça peut faire peur. Et je pense que ça fait peur à beaucoup de gens. Mais à partir du moment où t'as sauté ce pas, et que tu kiffes ton aventure entrepreneuriale, même si évidemment c'est un roller coaster, hein, comme tu dis, il y a des hauts, il y a des bas, ton émotion le lundi à 14h et le mardi à 8h, elle sera complètement différente, et
complètement.
C'est complètement ok, mais c'est clair que ça fait partie du jeu.
Ça fait partie du jeu, mais en vrai, quel kiff de sortir de sa zone de confort et de pouvoir vivre de ce que tu fais toi.
Et justement, en parlant de kiff, c'est quoi le moment le plus marquant positivement de cette aventure ?
Il y en a plusieurs, en vrai. Il y en a plusieurs. Si je reviens sur les 2 ans qui sont passés avec les pépites, en termes d'événements, je dirais que événement tournage avec les Pépites de France, qui était assez incroyable, où je me dis bon, jamais je ferai ça de ma vie, mais c'était le Festival de Cannes, de faire un reportage pour une marque au Festival de Cannes, vivre en fait, être vraiment dans cette période là dans cet univers qui est un autre monde pour moi, et là c'était assez incroyable. La deuxième chose, et ça où je suis plutôt content de pouvoir rendre l'appareil, mais de pouvoir faire de pouvoir emmener mes parents, de m'emmener ma famille, ma sœur ou mes amis en voyage avec moi. On a la possibilité du coup de faire des partenariats avec en collaboration avec des stations de ski. Donc je suis parti au ski, j'ai pu emmener mes amis, ma famille, mais faire voyager ma famille, ouais, ça c'est une satisfaction de pouvoir faire plaisir à son entourage, quoi.
Du coup, ça me fait penser à une question que je rajoute sur cette partie bilan qui n'a rien à voir. Mais c'est quoi le lieu le plus stylé que tu as vu en France ? Toi qui a quand même vu...
Pas mal voyagé.
Pas mal de lieux sympas.
Eh ben, l'un des plus beaux lieux que j'ai pu voir, je pense, c'est un dernier que j'ai fait. Et c'est le village de Gordes. Le village de Gordes qui est à 1 heure de Marseille. Et c'est incroyable. C'est un des plus beaux villages au monde. Enfin, il a été élu un des plus... Il a été élu l'un des plus beaux villages au monde cette année, justement. Et c'est vraiment beau pour le coup, parce que tu as c'est un village qui est sur une colline. Juste derrière, t'as l'abbaye de Sénanc, qui est une abbaye entourée de champs de lavande. Et pas très loin, tu as le Colorado provençal, qui est un endroit unique. T'as l'impression d'être... Enfin, ça s'appelle le Sentier des Ocres, mais tu as l'impression d'être aux États-Unis, quoi.
Ouais, ok.
Donc, cette région, elle est assez incroyable parce que...
Très stylé.
Vraiment, à quelques heures de route, t'as vraiment plusieurs des paysages différents, quoi.
Ouais, ok. Bah, écoute, je checkerai tout ça, puis je me bookerai un petit voyage. on passe à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. La première question, c'est est-ce que tu veux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure ?
En vrai de vrai, la rencontre qui a marqué mon aventure, c'est quand même la rencontre avec Erwan, qui m'a fait confiance et qui m'a permis de développer un média et de prendre plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui, de me faire confiance, ouais, je pense qu'on a vécu, une expérience de malade pendant 2 ans, qui était assez intense, hein, mais je pense que je parlais plus à lui qu'à ma copine. Mais ouais, je pense que c'est une de mes plus belles rencontres dans la partie entrepreneuriat, même si forcément c'est pas facile tous les jours d'entreprendre à deux. Voilà, on a des choix différents, mais je pense que sans lui, j'en serais pas là non plus aujourd'hui à faire tout ce que je fais. Si j'avais pas eu cette confiance et qu'il a pu m'accorder ou dans tous les ce qu'on a pu développer ensemble, j'en serais pas là aujourd'hui.
Ouais, c'est clairement une rencontre qui a actionné tout le reste.
Ouais.
C'est quoi le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre ?
Pour moi, le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait déjà. Parce que si on se lève le matin et qu'on se dit j'ai pas envie d'y aller, bon, ça peut nous arriver, mais on est quand même content de se lever le matin pour travailler pour soi et d'entreprendre ce qu'on entreprend. Donc je pense qu'il faut être passionné parce qu'on passe beaucoup de temps quand on est entrepreneur, voilà, il n'y a pas forcément d'horaire. On travaille toute la semaine et même le week-end. Voilà, ça peut arriver que de temps en temps on travaille. Enfin, moi, personnellement, ça m'arrive. Mais je pense que c'est le cas pour plein d'autres. Faut avoir les reins solides et faut être passionné, je pense.
Ouais. Puis en tant qu'entrepreneur, on sait pourquoi on fait ce qu'on fait et tout ça découle en fait du reste. Donc
exactement.
C'est hyper important. Comment ton entourage a vécu et vit encore cette aventure entrepreneuriale ? Soit tes parents, ta copine ?
Eh ben, si je parle de ma copine, par exemple, bon, ben, elle suit le projet depuis le début, donc j'avoue que je la remercie de me supporter aussi tous les jours, parce que c'est pas facile. Mais ma famille, en fait, mes parents, quand je leur dis que je quitte mon CDI, ils sont là, tu es sûr, enfin t'es sûr que tu veux vraiment quitter ton CDI, mais en même temps si tu veux kiffer ce que tu as envie d'entreprendre, genre vas-y quoi. Enfin, donc j'ai la chance d'avoir ma famille, ma sœur aussi qui m'a toujours soutenu pour entreprendre, et ce qui est assez dingue quand même, parce qu'eux ils ont jamais eu de parcours dans l'entrepreneuriat, ils ont toujours eu à travailler dans une entreprise toute leur vie.
Donc un soutien important finalement.
Voilà, ouais.
On passe à la dernière question de cette partie. comment est-ce que tu relis le pro et le perso ?
Vu que j'ai la chance de quand même créer du contenu dans la thématique du voyage, je peux me permettre de voyager et à la fois travailler. Ça m'arrive de temps en temps de partir en week-end pour mettre en avant... je sais pas, un paysage, un logement. Donc je prends du temps pour à la fois créer du contenu et à la fois du temps pour voyager, me dépayser un peu. Là, l'objectif, c'est de partir un peu dans des pays qui sont assez incroyables, donc de profiter de pouvoir lier mon travail et mon plaisir aussi de voyager, tu vois.
Ok, aussi bien une passion et un taf, finalement.
Exactement.
On va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange, avec quelques petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre.
Ouais.
La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ?
Du sport.
Du sport ?
Je prends plus de temps. Il y a une période où j'avais pas le temps en me disant « Allez, je charbonne ». Et là, récemment, j'ai repris et ça permet de libérer, de...
D'extérioriser. Penser,
d'extérioriser et de pas être sur son téléphone. On profite de ce moment-là pour penser à autre chose et à savoir rien que courir.
Ouf.
Donc, ok. C'est plutôt cool.
C'est quoi ton plus grand rêve ?
plus grand rêve, c'est de pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir faire voyager et faire plaisir à mon entourage.
C'est quoi ta plus grande peur?
Ma plus grande peur, c'est surtout de perdre ses proches. Parce que mes proches, c'est ceux qui me motivent à faire ce que je fais aujourd'hui, qui me soutiennent vachement. Donc ouais, je pense que c'est une de mes plus grandes peurs.
Est-ce que t'as un livre à me conseiller?
Un livre à te conseiller? Écoute, oui, j'en ai un. Il est très connu. Il est très connu, mais c'est le premier livre que j'ai lu, qui s'appelle Père riche, père pauvre.
Ok. Je connais de nom et je ne l'ai jamais lu.
Je t'invite à le lire, c'est vraiment très sympa.
Est-ce que on mettra de toute façon toutes tes recos en lien. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller?
Une série à te conseiller, il y a une série qui est vraiment très sympa, qui est dans l'entrepreneuriat aussi, mais dans vraiment un autre délire, qui s'appelle Ozark.
Ah, j'avais commencé à regarder, mais...
Bon, il faut aller un peu plus loin, mais ouais. Okay. La série elle est dingue.
Je
entreprendre, mais pas dans un côté super
c'est
facile.
C'est pas dans un même mood que Breaking Bad, un peu? Dans
le stupéfiant. Ouais, il y a un air. C'est vrai qu'il y a pas mal de séries, en vrai, c'est dur. Breaking Bad, c'est une des meilleures séries que j'ai vues.
Légendaire.
Elle est incroyable.
Je pense que c'est mon top.
Mais franchement, Ozark, c'est pas mal aussi, ouais.
Ok.
Ouais. Parce que, pour changer, parce que Breaking Bad, on le sent souvent.
Bien sûr.
Mais Ozark, pas mal.
Ok. Bah je me note, il faut que je retourne voir cette série-là. il me reste trois petites questions, et celle-ci, je l'ai rajoutée il y a quelques semaines, à la rentrée. Elle s'appelle la question reverse. C'est comme Uno, tu vois, la carte qui... la carte reverse. et tu deviens host du podcast pendant une seule question, faut pas déconner. y a-t-il une question que tu aimerais me poser?
C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je te renvoie la question. C'est quoi ta plus grande peur?
Je pense qu'il y en a plein, en vrai. Je pense que j'ai plein de grandes peurs. Je pense que la première, ça va être de perdre les gens que j'aime, tu vois, un peu dans le même mood que je pense que tout le monde, en vrai, je pense que c'est une peur standard, on va dire. En fait, tout ce qui touche au perso, je pense que c'est mes plus grandes peurs, c'est ça. C'est genre le temps qui passe. Le fait que tu sais qu'au fil des années, tu vas voir des gens que t'aimes partir. Ça, c'est... Mmh. Tu sais que ça fait partie du jeu. Mais pour autant, c'est comme ça. Donc, c'est que des peurs personnelles. J'ai pas de peur professionnelle, tu vois. Mmh. J'ai aucune peur professionnelle. Genre, je suis suffisamment confiant que ce soit sur le podcast, sur l'agence, etc. Le pire qui peut arriver, finalement, ne sera pas dramatique.
Ok, super.
Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode?
Si il y a possibilité, j'en aurais trois en tête.
Dis-moi.
En premier, je pense que tu peux aller voir Clément Petit, qui a une agence aujourd'hui d'influence qui s'appelle Lumera. En deuxième, Henri Hourcade, qui a entrepris, en fait, et a créé un business pendant qu'il était en école de commerce. Qui a monté un fast-food et aujourd'hui qui a monté sa boîte, voilà, et c'est celui qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui à entreprendre.
Ok.
Et en troisième, avec qui je passe beaucoup de temps aujourd'hui, c'est Damien Maubert, qui est à la fois réalisateur, qui est aussi sur les réseaux sociaux, qui beaucoup de projets, qui est très très bon dans ce qu'il fait. Il a réalisé pas mal de clips aussi, il a réalisé le clip de Big Flo Oli, il a fait la première émission YouTube de Magla,
donc un giga.
Je pense que t'auras de quoi échanger.
Très bon profil, voilà. Super. Exactement. Écoute, je me note ces trois recos. Dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi un entrepreneur?
C'est une personne qui n'a pas peur du risque et qui sait sortir sa zone de confort.
Bah écoute, je te propose que ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup à Lucas pour cet échange. J'espère que ça t'a plu pour ce tout premier podcast. Et j'espère que toi aussi qui nous a regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra tes liens en description. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un maximum de kiff pour la suite.
Exactement, ouais.
Et je pense que ce sera déjà très bien. Je pense que tout le reste découlera de ce maximum de kiff.
Et en tout cas, merci beaucoup pour m'avoir accueilli pour ce premier podcast.
Avec grand plaisir.
Et plein de belles choses pour la suite.
Merci bien. Ciao, ciao.
Ciao.